Au fil de l'eau, revient sur cette antenne radio-judaïque. Devant l'eau profonde du fleuve, vous pouvez choisir différentes visions. Vous pouvez voir ou ne pas voir, au gré de vos envies. L'eau est immobile ou avec un courant, mais les fleuves, les rivières de notre belle région, sont sans ambiguïté. Car si on veut voir, c'est magnifique, et si on veut entendre, c'est splendide.
Ils battent les flots, les fleuves et les canaux. Et on ne les voit jamais que le pied à quai. Marin de terre ferme, ouvrier d'eau douce, personne ne connaît la chanson du marinier.
Alors, nous allons découvrir ce monde de la batellerie et des mariniers à travers des rencontres, des reportages, des coups de cœur, beaucoup d'émotions au fil de l'eau. Embarquez ! Yvan, bonjour.
Bonjour.
Yvan comment ?
Yvan Tseplaïev.
Quelle année, Yvan ?
Quelle année de naissance ? 1960.
Quel signe ?
Bélier.
Bélier. Bon, toujours retraité ?
Oui, nouvellement retraité.
Nouvellement retraité. Alors on part pour la vie de pirate.
Ouais.
Quand on est pirate, il faut être acrobate. Et savoir grimper sans se casser le nez. Oh, is, oh, is, oh, eh. Pour rire et s'amuser, il n'y a rien qui batte. La vie de pirate.
Quand on est pirate. Alors, on va pas parler des pirates. On va revenir, bien sûr, avant Jésus-Christ. Longtemps avant, 200 ans ou 300 ans avant.
Oui, 3e siècle, 2e siècle.
Ouais. On va oublier le mur païen,
oui.
Parce que j'en ai déjà parlé longuement, et on va parler d'un autre mur, celui du Frankenbourg. Peux-tu nous dire la raison de ces deux murs, parce que tu dis qu'ils sont liés?
Ah oui, ils sont parfaitement liés, parce qu'ils sont faits exactement de la même manière. Ils ont été construits avec des grands appareillages sans liant, avec tenons et mortaises. Donc on peut dire très logiquement que ce sont des murs qui ont été faits par le même bâtisseur. Et ça, c'est vraiment indispensable de bien comprendre ça, parce que si on ne sait pas ça, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Mais le Frankenbourg est tellement proche d'une frontière avec le Tenchel, qui est un autre mur païen, mais construit totalement différemment, qu'on peut se dire qu'il y avait une frontière entre les deux. Et si je dis qu'ils sont totalement dépendants l'un de l'autre, Frankenbourg, Mont-Saint-Odile, c'est simplement parce que ça donne une indication très importante sur la période sur laquelle elle pourrait être datée.
Alors tu vas me dire qu'il y a trois frontières ?
Il y aurait trois frontières, parce qu'il y a le Tenchel, le Frankenbourg, et un autre qu'on oublie assez fréquemment, c'est l'oppidum de la Bure à Saint-Dié.
Alors, les peuples, parce que là, il faut me comprendre, s'il y a des frontières, il y a différents peuples.
Oui, alors il y a trois peuples, du coup. Hein. Il y a les médiomatriques, qui seraient du côté du Frankenbourg et le Mont-Saint-Odile. Il y a, pour ma part, si on parle de la période du 3e siècle, sans doute les Séquanes, qui sont au sud avec le Tenchel, et à l'ouest, plutôt les Leucs, avec l'oppidum de la Bure, à Saint-Dié.
Alors, le Frankenbourg, ils avaient, c'était quel peuple ? Tu répètes-le moi, s'il te plaît. Ils étaient déjà avec les Gaulois de Belgique ? Non.
Ah, le Frankenbourg, c'est bien sur le territoire à l'époque de cette période. Si on veut bien les relier avec le Mont-Saint-Odile, c'est ça qui est important. Parce qu'après, lorsque les Tribok et les Rorak sont arrivés, la frontière se retrouve entre les deux. Donc on sait que, du coup, on pourrait savoir logiquement que si on descend la frontière en dessous du Frankenbourg pour réunir les deux murs, le Frankenbourg et le Mont-Saint-Odile, c'est le territoire des médiomatriques. Mais il faut savoir que les médiomatriques, du coup, on pourrait dire que ce sont eux qui ont construit les deux murs païens. Je pense que non, simplement pour une raison, c'est que leur capitale, c'était donc Divodorum, c'est Metz, actuellement Metz, et on ne retrouve pas sur l'ensemble de leur territoire les mêmes constructions. Partout ailleurs, c'est fait différemment, donc on pourrait dire que c'est un autre bâtisseur qui est venu les aider à cette période qui pourrait être la période des Séquanes.
Alors je sais que je vais modérer mon propos, hein,
Je ne vais pas parler d'éléphant, parce qu'il n'y a pas d'éléphant. Je ne vais pas parler de ça, je vois qui fait la tête. J'aime bien parler d'éléphant. J'aime bien, cette image des éléphants en Alsace, elle me passionne, parce qu'il y a les chameaux.
Ah oui, ouais, mais bon, ça arrive beaucoup plus tard.
Oui, mais les chameaux sont sur des bornes.
Ah voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai que ça, c'était une des premières choses que j'ai remarquées quand je me baladais du côté du mur païen. C'est qu'il y avait des bornes sur le chemin sur lesquelles je voyais un chameau avec une croix dessus. Enfin, un chameau. C'est tellement bien dessiné que ça paraissait un petit peu bizarre. Je ne savais pas trop ce que c'était. Mais on me disait, vous savez, ici, c'est le sentier du chameau. Oh là, le sentier du chameau. Mais alors, c'est donc un chameau sur cette borne, mais avec une croix dessus. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Mais le problème sur cette borne, il y avait une date, je crois que c'était de 1763, quelque chose comme ça. Enfin bref, je ne sais plus très bien.
Ça.
Et je me disais, bon, à cette période-là, voir un chameau sur un sentier, pourquoi pas, hein, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Parce que moi, j'aime bien les mystères, en fait. J'aime bien faire de l'investigation, j'aime bien chercher pourquoi et comment. Et je pars du principe que tout mystère a une part de vérité, quelque part. Donc, il faut chercher. Alors, j'ai cherché et puis je me suis rendu compte que la datation qui était dessus, c'était simplement parce que le sentier avait été refait à l'époque. Et pourquoi le chameau, alors, du coup ? Alors, je suis remonté dans le temps et puis finalement, je suis tombé sur une histoire incroyable. Du temps de Charlemagne, en 800 après Jésus.
Ouais. Alors, cette histoire de Charlemagne, il a failli être décapité, c'est ça ?
Ah, c'est pas Charlemagne, c'est un de son entourage qui était très proche de Charlemagne et qui était convoité. Il était convoité par ceux qui étaient aussi autour de Charlemagne, mais il voyait bien que ce personnage était trop près de Charlemagne. Et donc, ces personnages ont dit à Charlemagne qu'il était en train de comploter contre lui. Et Charlemagne s'est mis en colère, il s'est mis en colère et il a voulu décapiter, en fait, cette personne. Et en voulant le décapiter, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Et Charlemagne y a compris à ce moment-là que...
La décapitation à la façon romaine.
Oh, au glaive.
Au glaive, je pense que c'est dans la partie de l'épaule où tu peux rentrer entre le cou et le haut de l'épaule, car le glaive, on le mettait là et on l'enfonçait directement et il perforait le cœur.
Ah, là par contre, je crois que c'est plutôt une décapitation.
Non, parce que c'est le bras qui n'a pas pu rentrer. Selon la légende, le premier n'a pas pu baisser le bras, le deuxième n'a pas pu baisser le bras. Charlemagne lui-même a essayé, n'a pas pu y arriver et il a considéré que c'était quelqu'un qui était
de Bourgogne.
Un signe
de Dieu.
Un signe de Dieu.
Qui lui a indiqué comme quoi cette personne était plutôt innocente.
Et il lui a remis, comme c'était la tradition, des saintes reliques.
En fait, il lui a proposé, puisqu'il a eu tort de vouloir le décapiter, et il lui a proposé d'avoir ce qui lui plaisait. Et lui, il a répondu qu'étant pieux, il ne désire ni château, ni argent. Par contre, peut-être qu'il aurait bien voulu avoir les reliques qui avaient été remises par le patriarche de Jérusalem à l'époque, dans lequel on pouvait retrouver... il y avait une partie du voile de Marie, il y avait le prépuce du Christ... On sait qu'on en a trouvé plusieurs. et puis, il y avait d'autres reliques très importantes, hein, bien sûr. Et donc, il les a données à cette fameuse personne. Et pour le coup, il est rentré avec dans sa région de Franche-Comté, la Bourgogne. Et il s'est senti indigne. Il ne s'est pas senti digne d'avoir un tel trésor chez lui pour le garder. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait venir un chameau qu'il a habillé et il a mis les reliques dans une croix qu'on appelle la croix de Niedermünster maintenant. Hein. Il a mis sur le chameau en disant que ce serait à la grâce de Dieu. Le jour où le chameau s'arrêterait et se poserait au sol, la croix resterait... voilà, ça a été choisi comme un lieu de Dieu. Et donc, le chameau est parti, mais il n'est pas parti tout seul. Il est parti avec cinq chevaliers. Cinq chevaliers qui ont emmené le chameau, ils l'ont laissé partir comme ça avec la croix dessus et avec une Bible précieuse, d'ailleurs, que sa femme avait remis, qu'il il l'a mis sur le chameau aussi. Et le chameau est parti, il est remonté un petit peu en Alsace, il s'est arrêté une fois à Saint-Nabord.
À Saint-Nabord.
Voilà, ouais. il s'est arrêté à Saint-Nabord.
Au Danemark, on appelle ça le rocher du... le sabot du...
Oui, le sabot du
chameau.
Du chameau.
Voilà, sur le rocher, le sabot.
Mais il s'est relevé tout de suite. Donc, ce n'était pas tout à fait l'endroit encore. Et le chameau a continué. Et il s'est retrouvé à l'abbaye de Niedermaster, qui était l'ancienne abbaye qui se trouve en dessous du mont Saint-Odile. Parce qu'il y a deux abbayes à l'époque qui avaient été construites par Saint-Odile. Et Niedermaster, le chameau s'est arrêté là. Et donc la croix est restée à Niedermaster, mais réellement, hein, puisqu'elle était dessinée à l'époque par le dessinateur Silbermann. C'est la réalité. Cette croix a vraiment existé. Et elle est restée pratiquement jusqu'à...
La Révolution.
Pas tout à fait la Révolution, parce que Niedermaster a été totalement brûlé. Et donc, ils ont rapatrié d'abord la croix du côté de Molsheim. Et puis ensuite, à la Révolution, la croix a été récupérée pour fondre tout ce qui était précieux à la monnaie de Strasbourg. Et on n'a plus jamais retrouvé les reliques depuis ce temps-là, quoi. Donc, ça a réellement existé. La croix a réellement existé. C'est pour ça qu'on trouve aujourd'hui le chameau avec la croix sur le chemin du chameau. Et c'était en 802 après Jésus-Christ, donc plus tôt qu'on le pense, hein. Alors, que sont devenus les chevaliers, du coup ? Les chevaliers n'avaient plus le travail de suivre le chameau. Donc, ils sont partis, mais ils sont revenus. Et ils ont fondé un ermitage qui s'appelle Saint-Jacques, qui se trouve en dessous de Saint-Odile, un petit peu en dessous. Donc Saint-Jacques, il y a une petite chapelle encore hein, qui est aujourd'hui en ruine, mais dans lequel vous pouvez trouver un rocher qui a la forme de la bosse du chameau. Et c'est donc l'ermitage.
J'adore ces histoires. Moi, ces histoires, je pourrais les écouter tout le temps. Et en plus, sachez une chose, chers amis et auditeurs, le sentier du chameau est répertorié et il existe. Et il y a un sentier du Club Vosgien qui a ce format et vous pouvez le faire. On va écouter une de tes chansons préférées.
D'accord.
Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles, se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prêtes à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'elles puissent nous bénir. Après cette prière, avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorges et d'hydromel. Pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille.
Alors, comme tu as été très bavard avec le chameau, je suis obligé de couper l'histoire du chameau pour revenir au Frankenbourg. Et les menhirs et les mégalithes sont-elles présents en cette enceinte ?
Je crois qu'il y a certaines présences, effectivement. Mais ce qu'on trouve le plus, c'est plutôt des formations qui s'appellent des cupules sur des grands blocs rocheux. Qu'on a imaginé à un moment donné être des chaudrons de sorcières, où il pouvait y avoir des sacrifices. On pouvait imaginer aussi que ces cupules pouvaient servir à fendre la pierre pour construire le mur païen, par exemple, en mettant de l'eau dedans et puis en faisant couler de l'eau doucement sur le bois pour faire éclater la pierre. Ça semble plutôt naturel. Une érosion naturelle, hein. Peut-être que certains ont été retravaillés de main d'homme pour avoir une utilité différente.
De récipients,
voilà.
D'abreuvage pour faire boire,
oui.
Ou pour soigner.
Ah, je pense qu'il peut y avoir un petit peu de tout. Ça fait quand même des milliers d'années maintenant, on va dire, que ce genre de choses existent. Donc, qui peut dire comment elles ont été utilisées à différentes époques ?
Alors, le Frankenbourg, tu estimes l'enceinte à combien de kilomètres ? Le kilomètre de l'enceinte du Frankenbourg, parce qu'on sait que le mur païen, c'est plus de 10 kilomètres.
Il est beaucoup plus petit, hein, celui du Frankenbourg. Il fait à peu près 600 mètres de circonférence. Hein, donc plus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est vraiment, à mon sens, à une frontière entre les médiumatriques et le Tenchel, donc les séquanes, pour ma part, c'est ce que j'avance.
Et il avait plusieurs portes, ou il avait qu'une porte d'entrée? Il y a plusieurs portes
Alors, elle est justement en étude. Hein. Il y a des fouilles archéologiques en ce moment où ils ont trouvé des choses, mais un petit peu plus bas, parce qu'en réalité, il pourrait y avoir trois enceintes, une enceinte un petit peu plus basse. Et le mur païen va bientôt être théoriquement fouillé par un archéologue qui s'appelle Clément Féliu. On attend avec impatience ses résultats et ses conclusions.
Et tu sais sur quelle zone?
La zone du
la zone du Frankenbourg.
Oui.
Mais sur quelle zone? Près du château, loin du?
Ah bah là, je pense qu'il va être du côté, on va dire, du côté sud-sud-ouest.
Sud-sud-ouest.
Oui, parce que là, c'est là qu'on va retrouver le plus de vestiges du mur païen bien conservé.
Donc de la défense vis-à-vis de Saint-Dié de la Bure.
Ah oui, absolument. Ouais.
Voilà. Donc une ligne de construction de front. On peut le dire comme ça.
Oui, plutôt du Tenchel. Hein, parce
du
que
Tenchel.
Quand vous êtes sur le mur païen du Frankenbourg, on est en vis-à-vis direct avec le Tenchel. Direct, mais vraiment direct. Quand on est d'un côté ou d'un autre, on voit directement l'un et l'autre de chaque côté.
Alors, est-ce que tu as fait un saut et une étude sur Saint-Dié de ce fort celtique?
Bah, j'ai été bien sûr voir ce qu'il en était, puisque quand on fait une investigation sur une construction de ce type, on ne peut pas, ne pas s'intéresser à tout ce qu'il y a autour. Il faut s'intéresser à la géographie, bien sûr, à la politique de l'époque, à cette opportunité d'avoir les possibilités d'être sur site aussi, hein, puisque moi je suis au bord du mur païen du Mont-Saint-Odile, donc Frankenbourg c'est pas loin, la Bure c'est pas loin. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la Bure, ils ont une construction aussi de défense qui s'appelle le Murus Gallicus, qui est une forme totalement différente et qu'on retrouve d'ailleurs à Saverne, sur le territoire des médiumatriques qui se trouve à Saverne, le fossé oui. des Pandours. Mais c'est une construction totalement différente, ce qui permettrait aussi de pouvoir dater le Mont-Saint-Odile par rapport à l'oppidum du fossé des Pandours, puisque ce n'est pas la même construction. Donc on ne peut pas construire la même chose chez un même peuple. S'ils construisent d'une manière différente, c'est un petit peu bizarre, ce qui corroborait le fait que ça a été fait par un bâtisseur étranger, différent.
Alors moi, il y a une chose qui me passionne, c'est les cheminements, car il est rapporté, dit de bouche à oreille, que les Celtes circulaient sur les sommets, parce que c'était plus facile pour circuler pour les sommets. Donc je vois bien le cheminement du mur païen par le champ du feu, venant jusqu'au Climont, passant pour aller... Bon, d'accord, je comprends cette route-là, c'est une route...
Des voies importantes.
Des voies importantes, c'est parce que les voies ne se faisaient pas en bas, à cause des rivières, à cause des embuscades, à cause de différentes choses. Mais du Frankenbourg, comment parce qu'on est dans une vallée, on est dans la vallée de Lièvre, ça cheminait par où?
On va dire que pour la période celte ou gauloise, longtemps, on imaginait que c'était plutôt des passages ou des voies qui étaient plutôt modestes, mais on s'aperçoit que non, les Celtes et les Gaulois avaient vraiment des passages qui étaient importants.
Important, oui.
Et qui ont été reprises par la suite par les Romains, sur lesquels ils ont pu faire des voies romaines, les voies romaines. Mais elles sont arrivées quand même relativement tard. Hein. Ce qui est important aussi par rapport à ces murs païens, c'est qu'on n'a pas beaucoup de sites de hauteur, comme le mur païen ou ailleurs, construits par les Romains. Ils sont, eux, plutôt en vallée. Ils sont plutôt en vallée pour pouvoir construire leur camp. Mais pas souvent, enfin même pas du tout, on n'en trouve pas tellement de ce côté-là. Par contre, les Celtes et les Gaulois, sur les sites de hauteur, ils étaient beaucoup plus présents avec les oppidums. Les oppidas, pardon.
Ouais.
D'ailleurs, Alésia, c'est ça qui est intéressant, c'était aussi sur un site de hauteur. Et on dit souvent que dans le site d'Alésia, il n'y avait pas beaucoup de sources ou de choses comme ça, d'eau. Alors ça correspond bien au Mont Saint-Odile finalement, puisque on dit qu'il n'y avait pas de source suffisante au Mont Saint-Odile pour subvenir aux besoins d'une armée. Mais on voit bien qu'à Lésia, c'est flagrant. Hein. Tout le monde sait que la majorité des armées de Vercingétorix à l'époque étaient à Lésia, là où il n'y avait pas beaucoup de sources. Donc ce n'est pas un critère qui permettrait de dire qu'il n'y a pas eu d'armée au Mont Saint-Odile.
Alors ton choix du Frankenbourg, on va écouter ta chanson « L'île ». Est-ce que c'est une île de verdure perdue dans le massif vosgien ? On va écouter
maintenant,
ça.
Maintenant, il y a beaucoup d'arbres.
Une île entre le ciel et l'eau. Hommes ni bateaux, inculte, un peu comme une insulte sauvage, sans espoir de voyage, une île entre le ciel et l'eau, ce serait là, face à la mer immense, là, sans espoir d'espérance, tout seul face à ma destinée, du seul beau cœur d'une forêt, ce serait là dans ma propre défaite, tout seul sans espoir de conquête, que je saurais enfin pourquoi je t'ai quitté, moi qui n'aime que toi. Une cible d'or, tranquille, comme un enfant qui dort fidèle, à en mourir pour elle, cruelle.
Alors, est-ce que cette île de verdure du Frankenbourg était cruelle ? Est-ce qu'elle était noyée ? Quel était son sort ? Est-ce qu'il y a eu des batailles ? Est-ce qu'il y a eu des drames ? Ou est-ce que c'était quelque chose de paisible en cette zone ?
Ah, bah alors là, il faudrait peut-être remonter dans les littératures, etc. C'est... Je ne sais pas exactement. Je pense qu'il y a eu des batailles quand même. Ah oui, il y a eu des batailles puisque à l'arrivée des Rorak ou des Tribok, les Germains ont passé le Rhin et sont retrouvés de ce côté-là. Il pouvait y avoir des batailles d'ailleurs à partir des Cimbres et des Teutons qui ont pu arriver dans la vallée du Rhin, enfin dans la vallée d'Alsace autour de 100 avant Jésus-Christ, oui.
Alors, t'as pas une histoire croustillante, parce que t'en avais une autre histoire croustillante sur les sources au Mont Saint-Odile, une source perdue qu'on a retrouvée, en fin de compte, sur Bar, la grotte des druides. Non, tu ne l'as pas, cette histoire ?
La grotte des druides, je vois de quoi on parle, hein, sur le parcours du Mont Saint-Odile, du mur païen. Apparemment, ce serait plutôt une configuration qui serait plus naturelle que... Mais il y a toujours des personnes, visiblement, qui viennent en parlant de la grotte des druides.
Oui, la grotte des druides, elle est célèbre, cette grotte des druides, et on dit qu'il y a une source... Alors, on fait vite une ellipse sur le Tenchel, parce que le temps passe. Alors, le Tenchel, c'est quoi pour toi ?
Le Tenchel, on voit bien que sa configuration de fortification qui serait dirigée plutôt vers le nord. C'est-à-dire que ça fait un peu comme, c'est pas un fer à cheval, mais presque, hein, où on voit la défense, la muraille a été faite de telle façon que ça présente un arc qui se trouve dans le sens sud-nord, donc en direction du nord, donc vraiment en direction des médiumatriques. Et sa construction même de cette fortification, si on regarde un petit peu les fouilles qui ont été faites à Besançon, puisque Besançon pouvait être la capitale des Séquanes, ça a toujours été la capitale des Séquanes, hein, et c'est assez similaire au niveau de construction des pierres qui ont été mises dessus sur la fortification. Après, on retrouve ce style jusque chez les Éduins, hein, jusque la Saône, vous imaginez. Hein, la grandeur des territoires à l'époque, hein, les Séquanes remontaient jusque la Saône, donc c'est énorme. Et on retrouve à peu près le même style de construction dans ces eaux-là, donc c'est carrément différent, quoi.
Alors, tu sais, on est au fil de l'eau et le temps découle comme ça et passe.
C'est terrible.
Et on va vers la fin. Quelle est ta dernière, actuellement, mission? Qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta retraite, là? Parce que là, tu es un jeune retraité. Quel est ton dernier objectif, là?
Ah bah, l'objectif, ça va être de mettre toutes ces investigations en ordre, ce qui n'est pas simple du tout. Hein. Et puis, de pouvoir les mettre de telle façon que je puisse... le diffuser et la mettre à l'épreuve, on
donc
va dire, avec des gens, des personnes peut-être professionnelles, ça me ferait très plaisir. Le but, c'est vraiment de... maintenant que moi-même, je suis absolument convaincu de tout ça, que ça me paraît très concret et que les arguments semblent vraiment, et les indices concordants, je pense qu'il y a une possibilité de ce côté-là. Donc, il faut que j'avance encore.
Alors, je pense que tu es prêt à rencontrer, et on me l'a soufflé, Georges Bischoff.
Avec plaisir.
Je te remercie.
Ils battent les flots, les fleuves